Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, la maladie de Gaucher. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Fabrice Camus. Docteur Camus, bonjour.
Bonjour.
Docteur Camus, vous êtes médecin interniste, praticien hospitalier, en charge des consultations des maladies de surcharge lysosomale de l'adulte à l'hôpital Olévêque du CHU de Bordeaux. Vous êtes également président du COTG, le comité d'évaluation du traitement des maladies de Gaucher, et co-rédacteur du PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins sur la maladie de Gaucher. Alors, docteur Camus, nous l'avons dit, nous abordons aujourd'hui la maladie de Gaucher, et ma première question est très simple. Qu'est-ce que la maladie de Gaucher ?
Alors, en fait, la maladie de Gaucher, c'est une maladie génétique, une maladie rare, tout à fait exceptionnelle, qui est une maladie monogénique, récessive autosomique, donc finalement qui ne touche que les patients homozygotes, et qui appartient au grand groupe des maladies de surcharge lysosomale. En fait, la mutation des deux allèles du gène d'une enzyme, en l'occurrence la glucocérébrosidase, va entraîner un déficit d'activité enzymatique qui va progressivement entraîner une accumulation du substrat de cette enzyme dans les lysosomes des macrophages. Alors en fait, l'expression de cette maladie, elle est excessivement variable. C'est une maladie qui est longtemps fruste, ce qui retarde considérablement le diagnostic de cette maladie, qui finalement est congénitale, mais qui va, la plupart du temps, ne s'exprimer qu'à l'âge adulte. En France, en général, les patients, pour la grande majorité d'entre eux, sont diagnostiqués après l'âge de 20 ans, alors que quand on les interroge, on se rend compte que finalement, ces patients ont des symptômes depuis l'adolescence, la plupart du temps, mais ce sont des symptômes assez frustes qui ont pu passer inaperçus et retarder considérablement le diagnostic. On a à peu près 500 patients en France qui sont suivis régulièrement pour une maladie de Gaucher et 85 à 90% d'entre eux sont des adultes. En fait, on distingue classiquement trois grandes formes cliniques de la maladie de Gaucher. La plus fréquente, la plus classique, c'est le type 1 qui concerne finalement 95% des patients. Alors, c'est une expression clinique qui est excessivement hétérogène parce qu'on va avoir des patients qui peuvent rester complètement asymptomatiques toute leur vie ou au contraire avoir des tableaux beaucoup plus sévères qui vont s'exprimer dès la prime enfance. Et tout dépend en fait dans l'expression clinique de l'activité enzymatique résiduelle. En effet, la mutation du gène de l'enzyme peut altérer plus ou moins l'activité enzymatique et finalement altérer plus ou moins le fonctionnement des cellules dans lesquelles s'exprime l'activité enzymatique. Le type 2, c'est une forme tout à fait exceptionnelle. On a quelques patients qui sont diagnostiqués chaque année avec un type 2, mais c'est une maladie qui malheureusement est très rapidement létale avec beaucoup de manifestations neurologiques que nous n'avons pas classiquement dans la maladie de Gaucher de type 1. C'est vraiment une maladie de très mauvais pronostic, le type 2. Et puis enfin, on a la maladie de Gaucher de type 3, qui est une forme un peu intermédiaire entre le type 1 et le type 2. C'est une forme qui est tout à fait rare, hein, c'est à peu près 5% des maladies de Gaucher. Et c'est une maladie qui va associer les symptômes de la maladie de Gaucher de type 1, dont on va sans doute reparler, et puis des symptômes neurologiques qui peuvent être plus ou moins sévères et qui peuvent parfois se limiter à simplement des petites anomalies de l'oculomotricité.
Et comment est-ce que cette maladie survient ? Finalement, quelle est la physiopathologie de la maladie de Gaucher ?
En fait, tout se passe au sein du lysosome. Alors, le lysosome, c'est un petit organite intracellulaire dont on se souvient dans nos études de médecine, qui est présent dans toutes les cellules de l'organisme et qui va particulièrement être actif au sein des macrophages. Le lysosome, c'est finalement une unité de recyclage des débris intracellulaires, mais également de tout ce que l'organisme va rencontrer, ce qu'on appelle l'hétérophagie. Ça peut être, par exemple, la phagocytose des éléments type bactériens qui rentrent à l'intérieur des macrophages. Et le lysosome, c'est une cascade d'enzymes qui vont fonctionner les uns après les autres, un petit peu comme une chaîne de recyclage, hein, vraiment, des déchets. Et quand on a malheureusement un déficit enzymatique, eh bien, la chaîne de recyclage s'interrompt et tout ce qui est en amont de l'enzyme et qui aurait dû normalement entraîner la dégradation du produit s'accumule. Progressivement, les lysosomes, finalement, se trouvent engorgés de ces débris, de ces substrats de l'enzyme déficitaire, et puis progressivement, par ricochet, c'est le macrophage qui se trouve complètement gonflé, le macrophage étant dans la rate, dans le foie, dans les os, eh bien, on va avoir progressivement une accumulation de cellules qui, inexorablement, va entraîner un gonflement de ces organes.
Et comment est-ce que ça se traduit en clinique? Quels sont les principaux symptômes de la maladie de Gaucher?
Alors, on a deux grandes familles de symptômes. Le premier et le plus évident, si l'on conçoit la physiopathologie, c'est le gonflement des organes, et notamment des organes du système de recyclage. Et donc, on va avoir un gonflement de la rate, on va avoir également un gonflement du foie, donc une splénomégalie qui peut atteindre un volume tout à fait considérable parce que c'est une accumulation très progressive depuis l'enfance. Donc, on a des splénomégalies très volumineuses au cours de la maladie de Gaucher et dans une moindre mesure, une hépatomégalie. On a également des macrophages au sein de la moelle osseuse et on va avoir, alors là, bien sûr, pas de gonflement des os, mais des phénomènes intramédulaires ischémiques et on peut avoir des pathologies et des atteintes osseuses tout à fait dramatiques avec des ostéonécroses, des infarctus osseux qui sont en grande partie liés à cet encombrement macrophagique à l'intérieur de la moelle osseuse. Donc une première partie qui est liée directement à l'accumulation et qui peut se manifester donc par un gonflement des organes et des manifestations osseuses. Et puis, à côté de ces manifestations finalement de surcharge, on a aussi une anomalie de fonctionnement de ces cellules, et notamment des macrophages, qui vont entraîner un certain nombre de réactions inflammatoires, de production de cytokines, de modifications du système immunitaire, et qui vont entraîner plus tard, des manifestations, par exemple, comme des anomalies du système lymphoïde avec l'émergence de pathologies type lymphomateuse, par exemple, qui font partie des complications à long terme de la maladie. Mais on a aussi la production de gamma-globuline en grand nombre, voire de gammapathies monoclonales qui peuvent éventuellement, in fine, dégénérer jusqu'au myélome. On sait aussi que la maladie de Gaucher à long terme peut être associée à des manifestations malignes plus fréquentes qu'au cours de la vie d'un individu qui n'aurait pas ce déficit enzymatique. À côté de cette augmentation volumétrique du foie, de la rate, de l'encombrement des macrophages au sein de la moelle osseuse, on a également des conséquences, et ces conséquences sont principalement des cytopénies, et notamment une baisse qui peut être assez significative du taux de plaquettes. Cette baisse du taux de plaquettes, elle est en grande partie expliquée par la séquestration splénique et puis aussi, dans une moindre mesure, par l'insuffisance médulaire. La thrombopénie prédomine, elle concerne plus de 95% des patients. Elle peut être associée dans 7 à 8 cas sur 10 par une anémie qui est généralement modérée. En revanche, les leucopénies sont beaucoup plus rares. Un élément clinique qui est important, c'est l'absence d'adénopathie. Au cours de la maladie de Gaucher, la rate est augmentée de volume, le foie est augmenté de volume. Ça peut mettre à l'esprit la possibilité d'une hémopathie maligne sous-jacente. Mais ce qui va à contrario de cette possibilité, c'est justement l'absence d'adénopathie qui est un élément assez caractéristique dans la démarche diagnostique du médecin qui cherche l'hypothèse face à une splénomégalie associée à des cytopénies. L'interrogatoire peut également être intéressant quand on prend en charge ce type de patient, puisqu'on va fréquemment avoir des épisodes hémorragiques qui peuvent paraître bénins dans l'enfance ou à l'âge adulte, sont des épistaxis à répétition, des gingivorragies. Les jeunes femmes rapportent souvent des règles assez abondantes, avec d'ailleurs assez fréquemment un retard pubertaire, alors qu'on va plutôt trouver à l'interrogatoire des parents. Ce sont des jeunes gens qui ont une puberté plutôt tardive, et puis chez les jeunes femmes, effectivement, ces règles abondantes, c'est un élément qui doit mettre vraiment la puce à l'oreille quand on est face à une thrombopénie modérée associée à une splénomégalie.
Et pour les médecins qui peuvent être confrontés à des patients atteints de maladie de Gaucher, docteur Camus, quels sont les signes d'alerte qui doivent faire suspecter cette maladie?
Je pense que vraiment, c'est le caractère cinétique très lent, le fait que d'une consultation à l'autre, d'une année à l'autre, le médecin garde en tête qu'il existe une petite augmentation de volume de la rate ou que le patient, à l'occasion de prise de sang, avait une thrombopénie modérée entre 100 et 120 gigas par litre. Donc, quelque chose qui finalement n'a pas tellement attiré l'attention parce que l'état général du patient a été conservé. Donc, c'est vraiment par des associations à la fois de signes cliniques et de signes biologiques. Je pense par exemple à l'association d'une thrombopénie modérée avec une splénomégalie. Je pense également à une augmentation modérée de la ferritine, qui n'est pas expliquée par une maladie hépatique particulière. Bien entendu, les éléments qui doivent absolument alerter un médecin généraliste ou un rhumatologue, c'est la survenue d'un événement osseux chez quelqu'un qui, par ailleurs, n'a pas de pathologie ostéo-articulaire connue. Une ostéonécrose de tête fémorale à 30 ans doit absolument évoquer au médecin la maladie de Gaucher. Un patient qui a une gabapathie monoclonale à 50 ans, associée à une petite thrombopénie, c'est également un élément qui doit faire rechercher la maladie de Gaucher. Et finalement, avec quelques examens, une simple échographie abdominale, une biologie qui comprendrait une numération, un dosage de la ferritine, une électrophorèse des protéines, on peut très rapidement avoir des associations de signes cliniques et signes biologiques qui vont orienter vers la maladie de Gaucher.
Alors justement, en cas de suspicion de maladie de Gaucher, quelle attitude faudrait-il adopter ?
Finalement, le diagnostic de cette maladie rare est assez simple. Il repose sur le dosage de l'activité enzymatique qui est mesuré simplement avec un prélèvement sanguin. Prélèvement sanguin qui peut être réalisé dans n'importe quel laboratoire et ensuite qui sera dirigé vers les quelques laboratoires de biochimie spécialisés que l'on a en France. Il s'agit de demander le dosage de l'activité enzymatique de la glucocérébrosidase. En fait, la plupart du temps, les laboratoires de biochimie spécialisés vont faire le dosage enzymatique de plusieurs hydrolases, de ces hydrolases qui sont les enzymes lysosomales, parce que une autre maladie très proche de la maladie de Gaucher, c'est la maladie de Niemann-Pick B. Et il peut être très difficile pour un médecin non spécialiste de faire la différence entre un Niemann-Pick B et une maladie de Gaucher. Donc finalement, on est aidé par nos laboratoires de biochimie spécialisés. Donc simplement, une prise de sang suffira à faire le diagnostic de certitude de la maladie de Gaucher en montrant une diminution très significative de l'activité enzymatique de la glucocérébrosidase. À partir du moment où le diagnostic est évoqué, la recherche de l'activité enzymatique peut être réalisée dans un centre spécialisé. On peut tout à fait imaginer qu'un médecin généraliste, un rhumatologue, un hépatologue évoque le diagnostic des Gaucher, transfère le patient en consultation dans un centre spécialisé, éventuellement un centre expert affilié au CETG, qui fera réaliser le dosage enzymatique et puis qui derrière, bien sûr, diagnostiquera ou permettra de diagnostiquer toutes les éventuelles complications méconnues de cette maladie avec une batterie d'examens biologiques, permettra également de faire le diagnostic génétique avec la mise en évidence des mutations à l'origine de la maladie.
Eh bien, merci infiniment, Dr Camus, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la maladie de Gaucher. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.